Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alternative Football.
Ouais, Edouard, salut, c'est Paul, comment ça va? C'était pour te demander si c'était toujours bon pour tout à l'heure, 14h, pour le podcast. Voilà. Bisous, bisous.
Ouais, salut mon beau. Écoute, t'as pas dû recevoir mon WhatsApp. Non, finalement, laisse tomber, on a eu Julien Cazard. Donc ce sera pour une prochaine fois, mon beau.
Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football. Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Edouard Cissé et Mathieu Lille Palette.
Salut à tous et salut Paul.
Salut.
Bienvenue.
Salut Paul.
Chez Alternative Football.
Comment ça va? Merci de m'accueillir. Je suis content.
Avec grand plaisir.
C'est fou parce qu'on t'avait pas invité.
Mais non, mais avant je vous écoutais et maintenant je peux vous voir quoi. Je vois un peu les coulisses. Non, c'est mortel. Comment ça va?
Et alors, t'as pas peur?
Et alors, je vais m'en aller plus vite que prévu.
On va faire un teaser uniquement. Merci beaucoup d'être avec nous.
Ben merci, je suis content de voilà, de l'invitation. C'est Edouard qui m'a invité et voilà, j'ai pas hésité longtemps.
Merci d'être venu.
Alternative Football.
Alors, comment vous êtes connus déjà tous les deux?
On dit la vraie version ou la fausse version?
Non, la fausse.
La fausse?
Bah ouais, quand même.
La fausse, alors on était habillés. Non, la vraie version, Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Manchester City, victoire du Paris Saint-Germain, j'ai plus le score en tête, but d'Idrissa Gueye. But de purée, je l'ai plus.
Léo Messi,
le premier. On a vu, voilà. Comment on s'est rencontrés? On a vu ensemble le premier but de l'histoire du Paris Saint-Germain de Léo Messi sous ses nouvelles couleurs.
Et ça, forcément, ça scelle une amitié dès le départ.
Ça crée des liens. Non, écoute, oui, c'était sympa, voilà.
On a regardé le match, donc on n'a pas tellement parlé. Et derrière, on a un tout petit peu discuté. Et je me suis dit, tiens, Edouard.
Il n'est pas si con que ça.
Pour un footeux, il parle bien français.
C'est la phrase.
Et franchement, et hyper intéressant. Et du coup, on s'est revus 2-3 fois. Et on a parlé plein de trucs intéressants. Et voilà.
Bah, on va essayer de rester sur cette tendance et de parler de sujets intéressants. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de se poser la question de savoir quelle est la bonne distance entre humour et football. Donc si je te l'adresse comme ça...
Là, je vais répondre maintenant cash comme ça.
Propose-nous une première version de ta réponse.
5,50 m. La bonne distance, le premier truc qui me vient en tête là, c'est réussir à vanner quelqu'un tout en le respectant. Alors, je ne sais pas comment tu traduis ça en distance, mais c'est réussir à ce qu'on sente à travers ta blague quand même beaucoup de respect, d'admiration pour l'acteur du foot. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Ouais.
Je pense que c'est
la bienveillance, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est une manière de répondre à ta question. C'est le mec qui va vanner et tu sens qu'il veut juste vanner et machin, bah, je pense qu'il a dépassé il n'est pas à la bonne distance.
Tu avais très très bien répondu là, il y a 15 jours d'ailleurs, à cette question, en off.
Ouais.
Tu avais dit que c'est rire avec... le foot et non pas du foot.
Exactement.
Donc avec le footballeur et pas du footballeur.
Ah bah de toute façon, moi je suis tellement fan de foot et du footballeur que de toute façon j'aurais du mal à me moquer de lui parce que j'ai énormément de respect pour lui de base. Parce qu'il sait faire un truc que je sais pas faire et que j'ai essayé de faire. Mais et effectivement, cette réponse, ouais, elle est un peu clichée, mais elle est très très vraie. Je me la répète avant chaque émission. Rire avec quelqu'un et pas de quelqu'un. En gros, pour traduire ça en concret. C'est ce que je dis souvent, au lieu de dire à Rudy Garcia « Haha, t'es nul, tu vas te faire virer », je lui dis « Purée Rudy, on va tous les deux perdre notre taf, c'est chaud, non ?» Tu vois la diff, c'est exactement la même blague, mais sauf qu'il y a un truc où je me place avec lui et pas contre lui. Typiquement, l'image qu'on renvoie. On n'est pas souvent très conscient de l'image qu'on renvoie, mais il faut apprendre à être le plus conscient possible. Je vais dire un truc nul, un mec qui est en surpoids, il peut se permettre de dire à un autre gros, haha, t'es gros. Un mec qui est tout mince ou hyper sportif, hyper machin, s'il dit au gros, haha, t'es gros, la même vanne, hein. Tout de suite, on va dire, mais lui, c'est un connard, il est pas marrant, ça se fait pas. C'est con, tu vois, je prends cet exemple-là. Et donc, il faut être quand même super conscient de l'image que tu renvoies avant de faire une vanne. Et en fait, tous ces petits trucs-là, ça te pollue un peu parce qu'au final, une vanne, normalement, t'as envie de te dire, comme quand on est gosse, quoi.
Ouais.
On
ouais,
réfléchit puis... pas, on balance tout et ça s'appelle de l'humour et on s'en fout. Et en fait, non, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Et je dis pas que je le fais bien à chaque fois, hein, mais je dis qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte.
Mais il y en a un qui est clé, c'est la pertinence. Et l'humour, en général, est plus accepté ou même à la limite, il est plus drôle quand celui qui le pratique vient de la communauté ou du groupe. Auquel il parle, auquel il s'adresse
ouais, je vois ce que tu veux dire. Thierry Henry qui va dans notre footeux,
voilà.
Il a plus le droit que Paul de Saint-Saëns qui va dans notre footeux. Mais, bah, mais ça, c'est. Moi, ça me dérange pas, je trouve ça presque ouais. normal en fait.
D'accord.
Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me choque pas.
Mais du coup.
Que j'ai moins le droit que Thierry Henry de vanner un gars, tu vois. C'est que de vanner un gars qui fait du foot ou qu'Edouard Cissé d'aller vanner son ancien coéquipier, tu vois.
Mais ça fait aussi appel à la connaissance du foot. C'est-à-dire que. Pour être respecté dans l'humour du foot, il faut aussi, selon toi, en tant qu'humoriste, tu connaisses le foot, c'est-à-dire que tu t'y intéresses particulièrement, ou est-ce qu'un humoriste qui est juste un bon humoriste, même en ayant une connaissance relative du foot, il est capable d'être drôle sur le
sujet ? Ouais, mais pas sur le long terme. J'ai écouté un numéro que vous avez fait avec Laurent Salvaudon, directeur ouais. de la rédaction d'RMC Sport, absolument. Si j'ai pas de bêtises, ouais. Qui le dit. Il le dit, pour faire de l'humour dans une émission de foot, il faut absolument connaître le foot parce que sinon ça va très très vite tourner autour de « Ah là là, Ribéry, c'est pas parler français. »
Ouais, des clichés, ouais.
« Ah là là, Dimitri Payet, il a un gros ventre. » Et après, t'as plus de blagues à faire. Ouais. Et surtout, on sent que tu n'aimes pas la matière que... Enfin, c'est quand même la base d'un truc. C'est que déjà, tous ceux qui te regardent, ils ont payé un abonnement pour regarder du foot. Donc, ils kiffent le foot. Et toi, tu vas venir et tu vas dire « Le foot, c'est nul. » Mec, t'es con. Enfin, tu t'adresses pas au bon public si c'est pour faire ces vannes-là. Va les faire chez des gens qui méprisent le foot et le sport, sur une émission que je vais pas citer. Et là, tu auras ton public qui va dire « Ah ouais, il a raison, le foot, c'est nul. » Mais là, je viens m'adresser à des fans de foot qui sont prêts à payer 40 balles par mois pour voir un match. Je vais pas leur dire « Ah là là, les gars, votre sport, il est nul. Les gens qui y jouent, ils sont cons. » Enfin, ça serait complètement débile ouais, de ma part. Et de toute façon, j'y arriverai pas parce que c'est pas ce que je pense.
Ouais, exactement. C'est parce que ton lien par rapport au foot, il est marqué. T'aimes profondément ce sport et donc tu respectes les acteurs. Et c'est ça qui est intéressant. Parfois, dans certaines vannes de certains humoristes, bien entendu.
Je retire ce que j'ai dit au début du podcast.
tu sens vraiment que c'est pour faire mal. C'est pour blesser. Et tu sens parfois la frustration du gars de pas avoir été footballeur professionnel.
Ah, toi, tu ressens ça ?
Oh, ben, franchement, parfois. Parfois, je trouve que...
Est-ce qu'il y a des blagues sur toi pendant que tu jouais qui...
Non.
Non, ok.
Il n'y avait pas de mec qui faisait des blagues à ton époque-ci ? Il y en avait déjà ?
Non. Non, il n'y avait pas.
Il y avait Lagui, mais c'était très, très... Je ne sais pas si vous vous souvenez de Philippe Guillard. C'était très épisodique.
Ouais, c'était très épisodique et plutôt mignon.
Sur les Oscars du foot, il était très bon sur les trucs.
C'était mignon, c'était pertinent. En fin de compte, ce que j'aime, moi, c'est la subtilité. On sait tous, parfois. La subtilité, c'est différent de la méchanceté. Et je trouve que parfois, il y a certaines périodes où c'était un peu méchant, c'était gratuit. Ça faisait rire, parce que ça fait rire, parce que c'est de bon temps de se foutre dans la gueule du gars qui court derrière un ballon et qui gagne beaucoup d'argent et qui est bête.
Alternative football.
C'est un truc qui revient souvent, la culture foot en France dans Alternative football, sur le côté très vite beaufisant, etc., l'étiquette qu'on va un peu coller à ce sport. Justement, est-ce que tu as déjà une de tes interventions, une de tes vidéos ou un de tes sketchs qui a eu un impact, où tu te dis, ce commentaire-là, cette blague que j'ai fait, elle a apporté une contribution à une manière de voir le foot ?
Il y a deux choses. Sur le fond, sur scène, j'essaie d'expliquer comment, par exemple, j'essaie d'expliquer pourquoi le foot va prendre une part aussi importante dans la société. Et pourquoi c'est presque important qu'il en ait une, en fait. C'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment. C'est
d'accord.
Pas encore très clair, mais okay. Je pense que ça le sera. Et après, sur la forme, évidemment que j'ai eu des retombées positives. Il y a certains coachs qui avaient une image, entre guillemets, très froide, presque. Ouais, froide, c'est pour être gentil. Et puis après, deux, trois blagues, qui ont compris qu'en rentrant dans la blague, qu'en montrant qu'ils avaient de la répartie et de l'autodérision, ils pouvaient changer leur image. Moi, je.
Tu sais pourquoi
Je suis persuadé que Rudy Garcia, ça a été son cas. Rudy Garcia, à la fin, je lui posais plus de questions. C'est lui qui disait, il est où Paul? Il est pas là aujourd'hui. Il est malade parce que il sentait que ce truc-là, lui, l'aidait aussi, quoi, à être bien vu, à avoir le bon rôle dans l'histoire, à être, c'est pas moi. Hein, moi, je fais mon taf. C'est pas moi, je vais me faire virer. Je suis la victime de l'histoire et puis je suis sympa. Regardez, j'arrive à faire des vannes avec lui. Et puis, l'autodérision, c'est une grande forme d'intelligence. Donc, ça pouvait aussi. Tu vois,
lui ça lui sert, c'est-à-dire que
j'en suis persuadé.
C'est
ils sont... et là pardon, je suis hyper long mais parce que j'ai des trucs qui me viennent.
Ouais, c'est vrai que c'est long quand même. toi aussi tu fais des c'est moi le comique et
j'ai toujours préféré Mbani de toute façon. Au milieu, je trouve que c'était Mbani meilleur. À cette époque-là. voilà.
Fais gaffe.
Je vais prendre un autre humoriste.
Mais c'est vrai qu'il était super fort Modeste Mbani. Franchement,
oui, moins fort que toi. Et là, c'est pas pour. Je suis objectif. Il est moins fort que toi.
Ce qui était exceptionnel avec Mbami, c'est qu'il avait une voix qui n'allait pas du tout avec son physique. Je sais pas si vous vous rappelez la voix de Modeste.
Moi, je commente pas. Là, on est en train de parler d'une personne qui n'est pas là, qui n'écoute certainement pas le podcast, et j'ai pas envie de cracher sur.
On va t'enregistrer lors des déjeuners, Edouard, si c'est.
Bah alors là, franchement, tu peux. Bon, on reprend le fil, les gars.
Le gars s'appelle Modeste. pour reprendre un autre exemple, je sais pas si tu te souviens de certaines interventions de Julien Cazard avec Cheikh Diabaté.
Ouais.
À la base, Cheikh Diabaté, c'est un grand mec, un peu désarticulé, pas très élégant. On se dit pas c'est le meilleur attaquant de Ligue 1, on se dit pas il est particulièrement cool et sympa. Sauf qu'il est rentré 2-3 fois dans les blagues de Julien, il a eu de la répartie de l'autodérision, et à la fin c'est devenu un des joueurs préférés du public. Parce qu'il a su utiliser l'humour pour montrer, mais je suis pas qu'un mec qui court vite et qui machin. Guillaume Moirot, regardez, je suis un artiste, je sais jouer de la guitare, je sais bien parler, je sais trucs. Je suis certain que les joueurs qui ont quelque chose d'autre à offrir, l'humour est un super vecteur pour faire passer tout ça.
Et puis, l'amour fait aussi. L'amour aussi, mais l'humour fait appel à l'autre.
Tu voulais me chambouer.
Non, on recommence, je me casse. Ça y est, les gars.
Dans l'humour, il y a forcément un peu d'amour, n'est-ce pas? Ça fait appel aussi à l'authenticité. Et tu vois, Diabaté, ça a donné lieu à un super moment de télé à J+1 où à la fin il s'ouvre un peu, où lui il parle, tu vois, en disant ouais, mais j'ai aussi des trucs à dire. Et je trouve que, tu vois, je te parlais d'un moment, d'une intervention qui fait progresser un peu le truc. Moi, j'ai en tête notamment l'échange avec Mbappé. Pourquoi ? Parce que Mbappé, il est dans un truc hyper bordé, c'est-à-dire qu'en communication, c'est très fort. Il est très fort, lui, pour le faire respecter. Tu ne peux pas l'amener où tu veux en interview. Toi, tu lui envoies une punchline. Le masque, l'armure se fissure un peu. Il est plus spontané sur sa réponse. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que...
Ça le rend sympa. Ouais. Et même, je vais te dire un truc, point de vue de l'ancien journaliste que je suis. Moi, je suis persuadé qu'à travers l'humour, et je l'ai vécu quand j'étais au Petit Journal et que j'ai suivi la campagne présidentielle en 2017, à travers l'humour, tu obtiens des infos.
Ouais.
C'est-à-dire que Mbappé, sur une question hyper bordée avec sa réponse préparée, au final, tu ne vas pas apprendre grand-chose, malheureusement.
Non, il ne te le donnera pas.
Alors que sur un sourire, sur un étonnement, sur un « je ne sais pas quoi répondre », en fait, tu peux déceler des trucs, quoi. La question à laquelle tu fais référence, c'est « c'est bien gentil ces conneries, mais tu prolonges quand ?»
Exactement.
Lui, il a bien géré parce qu'il a rien laissé paraître, il a juste rigolé. Mais imagine, il fait demande à Leonardo. Ça, c'est une info.
Justement, on en parlait avec Laurent quand on parlait spécifiquement de J+1. On disait que l'un des trucs qui est arrivé après les J+1 et notamment les interventions de Cazard, c'est que les joueurs commençaient à mettre la main devant la bouche, tu sais, quand ils étaient sur le terrain. Et on disait ça, c'est l'une des conséquences. Du coup, ce que tu dis, c'est l'humour, il peut aussi. Apporter l'inverse, c'est-à-dire que plutôt que les mecs essaient de se protéger, et je vise pas Cazard.
Mais c'est une info aussi. C'est-à-dire que le joueur qui va refuser de rentrer dans ce truc-là, ça dit quelque chose de sa personnalité. Tu vois
C'est-à-dire qu'il va refuser de faire quoi ? De dire quoi ?
Le joueur qui va refuser le. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un coach qui refuse de rentrer dans mon jeu et qui me bâche direct après une vanne et qui fait le mec.
En gros, je suis pas là pour rire.
Je suis pas là pour machin. C'est aussi une info. Ça veut dire que ce gars-là, lui, il n'a pas trop d'autodérision. Ou en ce moment, il n'est pas du tout en mode « j'ai envie de rigoler ».
Alors, c'est ton point de vue. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais pourquoi les directions des différentes chaînes que tu as pu faire t'engagent ? Souvent, ce qui est compliqué pour nous en tant que sportifs, c'est de se dire « ok, il y a des journalistes, mais en plus, il y a un comique, un humoriste ». Qu'est-ce qu'ils veulent faire derrière ? Tu sais, il y a une forme de paranoïa chez nous, tu vois.
Ouais.
Ils vont se moquer de nous. Parce qu'on a eu des précédents, on a une historique où généralement, nous, on se faisait constamment chambrer. On se fait chambrer. Donc, de deux choses. Une, pour certains, on a de la répartie, donc c'est facile. Dans les vestiaires, on se chambre, donc on arrive à gérer. Et très souvent, Moi, j'ai assisté à des émissions où il y avait un sniper. Et ce sniper, il était là capable de te balancer un truc, mais qui n'avait rien à voir, mais pour blesser, pour dire oh, « t'as vu, t'es bête mmh. ». Tu vois donc toi, est-ce que quand les directions...
Mais ça, c'est hyper important que j'entende ça, par exemple. Même moi, si je me mets de l'autre côté, j'arrive à un dîner, il y a un mec que je connais pas, commence à me vanner direct, je vais me dire « gros, on a sauté une étape. Viens ouais. d'abord, on se dit bonjour, ouais. truc. »
C'est pour ça ouais. que ton rôle est très compliqué. C'est pour ça que je suis content que tu puisses venir ici pour expliquer un petit peu le fond de ton taf, pourquoi tu le fais et l'envie aussi. Parce que nous, on est joueurs et on se dit, autour d'un plateau de télé, il y a des journalistes, ok, plus un comique. Mmh. Ok. Pourquoi ? C'est pour encore mieux se foutre de notre gueule. Parce
ouais,
que, tu vois, c'est ça. Donc, il y a de la parano. Et donc, foncièrement, c'est peut-être pour ça que le mec, quand tu lui as posé une question, il a dit « qu'est-ce que tu veux ?» Non, non, c'est bon.
Je comprends tout
c'est
à
bon,
fait.
C'est bon, vous avez déjà en a perdu. Il y a suffisamment, en débriefant le match correctement, techniquement, tactiquement, il y a suffisamment de quoi rire, ou sourire, ou se moquer. Donc là, tu rajoutes ça.
Ouais, je comprends tout à fait.
Tu vois, c'est ça aussi la peur.
Mais t'entends bien, et tu commences à me connaître un
bien
peu,
sûr.
T'entends bien dans mon discours que moi, c'est vraiment la démarche inverse.
D'où le côté subtil. D'où le côté subtil. Donc c'est pour ça que t'es là.
Et j'ai une anecdote un tout petit peu intéressante à raconter à propos de ça. C'est que quand j'arrive à Téléfoot, la chaîne, moi, je leur dis, les gars, être en plateau, ça m'intéresse pas forcément. J'aimerais bien aller dans les clubs avec mon micro, comme je faisais au petit journal, ouais. Aller au contact des mecs, c'est ça qui me plaît, moi, c'est plus le terrain, les vanner, le truc, m'entraîner avec eux, c'est ça que je propose à la base, et eux, ils me disent ce truc que je trouve intelligent, ils me disent non, parce qu'ils te connaissent pas encore, donc ils vont pas accepter de se faire vanner comme ça, ils vont pas t'ouvrir les portes okay, aussi facilement. Good. Donc viens en plateau, le dimanche soir, fais tes blagues chez Anne-Laure Bonnet,
ouais.
Et tu verras que comme c'est une émission pas mal regardée, et bah, les joueurs vont commencer à te connaître, à te comprendre. Et après 6 mois, 1 an de ça, on t'envoie dans les clubs. Et là, crois-moi qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts. Ah, c'est l'autre chevelu qui fait ouais. les blagues. Viens, on va rigoler ensemble. Et je trouve ça hyper... c'est vrai.
Ouais, c'était fair.
Il y a cette...
C'était
ça rejoint ce que tu disais, Edouard.
Stratégiquement, c'était pas mal. C'était les 6 premiers mois où tu te fais voir et les 6 mois d'après ouais. où t'agis. Et ce qui s'est... Bah, il a manqué...
Il a manqué de l'oseille immédiatement. Mais la stratégie est très intelligente. C'est pas moi qui y ai pensé.
Elle est calée.
Et ça rejoint tout à fait ce que tu disais de ce truc de crainte du début, de porte fermée qui s'ouvre
parce
pas
que,
facilement.
Parce que pour tout dire, et tu sais mieux que quiconque, les footballeurs, on aime chambrer, on aime rire, on a de l'autodérision.
Mais vous adorez ça. Vous avez grandi là-dedans.
On a grandi dans ça. Et les plus grands comiques et les plus grands tailleurs, c'est souvent ceux qui sont le plus fermés à la face caméra. En dehors, tu vois, c'est des gros chambreurs.
Là, tu vas devoir nous donner un nom. Là.
Non, mais par exemple. Mais pas de souci. Nico Anelka, par exemple. Nico ouais. Anelka, on dit putain, il est fermé, il est ceci, il est cela. Mais le mec, c'est une bombe de mec.
Ouais.
Il n'y a pas une personne qui va vous dire que le mec, il n'est pas intéressant.
Ouais.
Il est à la fois cool, il chambre super bien et tu rigoles. T'as des barres de rire avec lui.
Ouais.
Par contre, quand tu le vois, non, il va se fermer parce qu'il a été sali parfois. Tu
et,
vois
c'est le, et c'est le, mon leitmotiv quand j'arrive, quand je monte sur scène et qu'après je vais voir les chaînes de foot, la première page à chaque fois de ma présentation ou la première phrase de mon discours, c'est les joueurs de foot. C'est des mecs qui ont mon âge, qui écoutent la même musique que moi, qui vont au cinéma comme moi et qui se vannent toute la journée. Ils ont grandi dans la culture de la vanne, ils passent leur vie dans des vestiaires. Mmh. Je ne sais pas si tu as déjà été dans un vestiaire, mais il n'y a que des vannes, il y a 1000 vannes à la seconde. Et pourquoi, quand j'allume ma télé, je ne vois pas 1/100 de ce truc-là
ouais.
C'est ça que je leur dis, ça c'est le constat de base. Et après, je leur dis comment on fait pour montrer qu'ils ont aussi, qu'ils sont aussi très humains.
Mais c'est ça, je pense que tu as aussi un côté désacralisation, c'est-à-dire que... on va pas invoquer des proches, mais il disait on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Les footballeurs, c'est tout le monde. C'est-à-dire que tu retrouves dans un vestiaire plus ou moins les mêmes types de gens que tu vas retrouver dans un bureau. La seule différence, c'est qu'ils sont forts au foot, mais en soi, ils sont autant capables de comprendre une blague
et
que
ça,
toi et moi.
Demande à Edouard. Je pense que dans un vestiaire, t'as le mec timide, le mec vanneur, le chambreur, le mec qui s'intéresse à la culture, le mec...
C'est
la société.
C'est un melting pot. Il y en a qui sont à l'aise avec la chambre. Il y en a qui s'intègrent grâce à la chambre. Il y en a, tu sais pertinemment, il ne faut pas les chambrer parce que tu les déstabilises de trop. Mais c'est très intéressant. Ouais, il y a des...
Et c'est vrai qu'à travers le traitement du foot depuis 10-15 ans, on a lissé tout ça, on a gommé toutes ces aspérités, toutes ces différences de personnalité. Et pour le grand public, malheureusement, à cause de ça, le footeux, il ressemble à un autre footeux. En fait.
Mais tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que très souvent, quand tu perds le match, il faut faire la gueule.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils vont dire les supporters si tu rigoles ? T'as pris 2-0, 3-0. Donc foncièrement, un mec, tu finis le match, t'es invité sur le plateau. T'as pris 2-0, de suite, le visage est fermé. Oui, il est déçu. Mais à un moment donné, si tu lui balances une vanne, il va être fermé. Parce que c'est la culture.
Mais
t'as perdu, t'es déçu. C'est la fin du monde.
C'est là où l'humoriste doit faire un tout petit peu appel à son intelligence et à sa finesse d'esprit. Le soir où je balance ça à Rudy Garcia, personne ne le note, mais il bat le Paris Saint-Germain. Il est entraîneur de Lyon, il bat le Paris Saint-Germain.
Je ne vole pas Kamel Sarin.
Je me dis, s'il y a un moment où je peux le vanner, c'est maintenant. Ouais. Et, où je peux, et en plus, je peux lui dire, t'imagines s'il se prend 4-0 à Paris et que je lui dis, ouais. Ah, tu vas te faire virer. C'est maladroit, c'est méchant, c'est taper sur un homme à terre.
Il y a une forme de... Oui, ton intelligence émotionnelle et sociale sur le moment, elle doit te dire ça passe ou pas. Et d'ailleurs, est-ce que tu te renseignes sur, je sais pas, les joueurs ou les coachs, tu sais qu'il va y avoir le coach en interview, ou est-ce que tu fais un background check avant disant, ouais,
pour là, être honnête, pas vraiment. Ouais. Je prends beaucoup le contexte. Bah, le match, tu vois, c'est vrai que si là, Marseille vient de prendre 4-0... je vais avoir plus de mal à vanner un Marseillais que truc. Donc ça, je m'en renseigne un petit peu. Après, moi, c'est vrai que je me dis souvent, c'est un péché que j'ai. Je l'ai encore fait ce week-end sur une scène, tu vois. Je préfère vanner les puissants qu'un mec facile à vanner. Donc quand Thomas Tuchel, intouchable, machin, arrive, ouais, entraîneur du PSG, il faut lui cirer les bottes en permanence, je me dis, putain, là, c'est le moment où c'est ce gars-là que j'ai envie de vanner. Par contre, quand l'attaquant de Metz vient... Et que bah, lui, il est tout sourire, il est content parce qu'ils ont pris leur première victoire de la saison. Je vais pas lui dire, ah, t'es nul, personne te connaît, Metz, c'est un club de merde. Surtout pas. Ouais. Par contre, quand Kylian vient et que tout le monde lui dit bravo Kylian, machin, bah là, je me dis, putain, c'est le moment où je dois lui dire, bon, gros, c'est bien gentil tes conneries, mais quand. Mais,
signe.
Ouais. En fait, je prendrais toujours beaucoup de plaisir à vanner un puissant qu'un. Que
d'où
quelqu'un.
D'où ça vient, ça, Paul? D'où ça vient, Paul?
Petit journal, un peu. Petit journal, franchement, j'adorais taper sur les gros candidats.
C'est chiant, hein, tu sais que c'est chiant. J'ai joué à Paris, Marseille, Monaco. Parfois, nous, en tant que joueurs, on se dit comment c'est possible qu'il y a autant de bienveillance chez les petits et pas chez les grands. Entre guillemets, quand je dis grands, les plus médiatisés. Parfois, tes joueurs, t'as besoin d'une hein, petite chambre, un petit truc, une petite tape sur la fesse,
ouais,
ou sur l'épaule.
Mais je trouve qu'il y a un challenge à vanner Zlatan qui est tout autre que à vanner.
Donc là, c'est un challenge perso.
Ludovic Ajorque.
Je pense que c'est la fameuse rançon de la gloire. C'est-à-dire
c'est
que...
un challenge. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire?
Il y a un truc de... Ouais, je ne saurais pas l'expliquer, mais oui, au petit journal, je préférais vanner Sarkozy que vanner Philippe Poutou, et ce n'est pas du tout par préférence politique, c'est parce que Philippe Poutou, il faisait...
Parce qu'on s'autorise moins de vanner...
Il faisait 1%. Vas-y, je trouve que t'as le mauvais rôle. Quand tu vannes un mec qui fait 1%, tu passes vite pour un connard, quoi.
Ouais, il y a une forme
alors
de noblesse à avoir aussi
si
dans
l'humour. Si tu vannes le mec qui se fait cirer les bottes toute la journée...
Une personne qui fait 1%, vu que c'est déjà une,
déjà.
En soi, une vanne.
Puis je trouve, ouais.
Bah, non mais...
Oui, non, mais il y a un peu ça, déjà, c'est vrai, que ce sera beaucoup moins puissant.
Ouais, c'est...
Et en plus, je trouve que dans le... Je sais pas, dans le concept, c'est pas sympa.
Donc,
quoi.
On est dans un politiquement correct.
Non.
Bah si, c'est une forme de politiquement correct.
Le politiquement correct, c'est de dire toute la journée, Mbappé, t'es beau, t'es fort, tu cours vite. Ça, c'est facile, je pourrais faire comme tout le monde. Hein. Macron, personne lui tape dessus. Hein. Bah, c'est bien quand il y en a un qui le fait, quoi. Enfin, avant qu'il soit président, je veux dire, Macron, ouais. Tout le monde lui disait, c'est génial. Et bah, c'est bien quand il y a un mec qui fait un pas de côté quand même, quoi.
Toi, quand on t'invite sur un plateau, en l'occurrence téléfoot, t'as une target, t'as une mission. Ouais, tu l'as expliqué, ta mission, bien entendu, c'est essayer de...
Moi j'ai une mission, viens, on rend le foot moins chiant, parce que le foot, c'est le truc que je préfère au monde. Et moi-même, parfois, je me surprends à me dire...
c'est sérieux.
Les émissions, je les regarde plus, quoi. Vraiment, j'ai du mal. Venez, on réinvente un peu ça, on humanise un peu ça. Ça, c'est la première mission. C'est on humanise, quoi. C'est le footeux, c'est pas... En fait, si je reçois X, c'est pas pareil que si je reçois Y. J'ai pas reçu un footeux, j'ai coché une case, ça y est, on a le footeux du jour. Mais non, en fait, il y a aucun footeux qui ressemble à un autre footeux. Enfin, tu vois, et t'as un super exemple tous les jours, Mathieu, avec Edouard, tu vois. Et moi, ça me fait chier parce que malheureusement, et je vise aucune émission en particulier parce que je les vise presque toutes, c'est pas le cas, quoi.
Le traitement est un peu systématique et systémique, c'est-à-dire
ouais,
que
bah
c'est...
J'ai écrit mon conducteur, pour toutes les émissions, c'est le même. Bonjour, on regarde le but, réaction coach 1, réaction coach 2, tableau résultat, tableau classement, et puis les questions, bah t'inquiète, reprends les mêmes que la semaine dernière. Mmh. Vous restez sur deux victoires consécutives, là c'est un petit coup d'arrêt de faire match nul, tu vois, enfin ça y est, c'est bon.
Ouais. Le but, c'est d'aller chercher les aspérités et
toutes les semaines, en fait, tu changes le nom des équipes, mais t'as la même émission.
Alternative football.
Alors justement, tu parles d'émissions et ça m'amène une transition naturelle. Tu parlais du quotidien. Comment on passe de quotidien à se spécialiser entre guillemets ou sur le foot ou à arriver jusqu'à Téléfoot. C'est quoi le parcours, le cheminement pour arriver à faire ce que tu as fait jusque-là?
Moi, à la base, je suis un footeux frustré, pas D'accord. assez fort pour en faire son métier, mais qui adore ça.
Okay.
Et qui se dit comment je vais pouvoir me rapprocher du milieu du foot sans être joueur. Ah bah tiens, si j'essayais d'être journaliste. Donc, je rentre dans une école de journalisme, je me rends compte, purée, c'est sympa, donc je bosse à fond, je finis avec 20 sur 20 à mon projet d'études, machin, enfin, je suis en mode le petit élève modèle qui veut kiffer faire ça, je rentre à Canal Coupe du Monde 2010, je deviens journaliste de foot. Voilà, petite chemise, petite veste, coupe courte, bonjour à tous, le mec parfait, quoi, pas de personnalité, qui est juste content d'être pas loin du milieu du foot, ok? Et puis à un moment, je commence à m'embêter clairement, à me rendre compte que j'ai envie de montrer un peu plus ma personnalité, de faire autre chose, d'être un peu moins robotique.
Ouais.
Ça rejoint un peu ce qu'on disait il y a quelques minutes. Et donc je lâche tout, je refuse le contrat, je pars jouer sur scène dans des bars, dans des machins, à 23h devant des mecs qui t'écoutent pas et qui boivent leur bière et t'es là à faire tes blagues, putain. Et puis le but final, c'est de mêler mes deux passions, foot et humour. Donc, c'est 5 ans de journaliste de foot et c'est 5 ans de scène. Hop, je les mêle, je les fusionne et on essaye de... Si je me dis purée, si je peux gagner ma vie en mêlant mes deux passions, c'est quand même un coup de maître.
Mmh.
Et c'est comme ça que je vais voir les chaînes. Au début, en leur disant, voilà, vous me connaissez, on a déjà bossé ensemble, voilà mon parcours. Depuis 5 ans, j'ai arrêté, je fais ça. Si ça vous dit, on essaye de faire un truc un peu différent, foot et humour. Et c'est vrai que les gens te disent, ah, c'est une bonne idée, mais ça fait un peu peur, quoi.
Ouais.
Et jusqu'à ce que Téléfoot se dise, écoute, ouais, nous on veut essayer de faire un truc différent, ça tombe très très bien, on a pensé à toi, voilà, donc on essaye. Au début, ils voulaient même, je trahis un secret, hein, la grande émission du dimanche soir, s'il n'y avait pas eu le Covid, c'était en public, il y avait un DJ et un sniper. Donc j'étais pas non plus la seule innovation, il y avait tout un D'accord. truc de show, on voulait faire un vrai show du dimanche soir. Au final, il n'y avait pas de public, donc pas de DJ, et il a failli pas avoir moi, parce que quand t'as pas de public pour rire au mec qui fait des blagues, tout de suite, ça devient gênant, donc on s'est dit, bon, on va abandonner.
Soit le plateau suit et adhère, et t'as au moins les rires des journalistes, soit ça risque, effectivement, ça peut être assez plat, et là, c'est ça. Ouais.
Et donc, pour répondre à ta question, pardon, j'ai un peu digressé, et quand j'étais dans ma période humour, je mêlais déjà ce truc de journalisme et humour, et en fait, le Petit Journal, c'est une très bonne école de... Je sais pas si t'as déjà regardé, mais en fait, ils vont poser des questions, mais un poil différentes. Donc le Petit Journal, quand ils viennent me chercher, ils se disent, je pense qu'ils se disent ça, t'es pas le meilleur journaliste, t'es pas le meilleur humoriste, mais t'es un gars qui est capable de faire les deux, c'est un peu le ton de notre émission, viens essayer chez nous. Je connaissais rien à la politique, et puis j'ai bossé, et puis j'ai fait ça.
D'accord. Et est-ce que tu fais justement la politique, c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde aussi, un peu comme le sport. Donc, est-ce que tu as une transition naturelle dans l'humour? C'est-à-dire que, est-ce que le côté désacralisation dont tu as besoin dans le sport, tu l'as retrouvé en politique et c'est pour ça que l'exercice a été...
Ouais. Et c'était plus facile pour moi encore parce que moi, du coup, je ne sacralisais pas les hommes politiques parce que j'étais pas du tout... Déjà, j'en connaissais pas beaucoup. Franchement, c'était pas du tout mon domaine de prédilection. Et quand tu arrives et que tu vois tous les journalistes politiques qui sont là à regarder « Oh, lui, c'est un ancien sénateur. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous m'accordez une minute ?» Moi, en fait, je fonçais dans le tas un peu plus facilement parce que je m'en foutais. En fait, c'est un peu con à dire, mais moi, je serais plus impressionné devant Zlatan Ibrahimovic que devant François Fillon. Ouais. En fait, et ça dépend des gens, ça, c'est la sensibilité de chacun. Mais du coup, c'était plus facile pour moi de rentrer dans un politique que je connaissais à peine plutôt que de rentrer dans un joueur où je me dis, putain, je suis pas capable de faire un dixième de ce qu'il fait.
T'as déjà fait un beat devant un joueur, justement, que t'es fan de ce mec et t'arrives pas à avoir la blague
Alors des beats, j'en ai fait plein, mais j'ai pas ce truc en tête là.
Tu vois ce que je veux dire? Tu parles de Zlatan, imagine devant Zlatan, t'as envie de balancer un truc, t'y arrives pas, tu bégayes, tu dis bon fuck.
Ouais, c'est ça, j'ai bien compris, j'ai pas trop... Si. Moi j'étais très fan d'Athem Ben Arfa, je le suis encore.
Ouais.
Voilà, c'était un peu ma génération, gaucher, machin, enfin c'était mon délire. J'ai un peu grandi avec ce mec-là. Et on le reçoit Téléfoot un soir de OM-PSG. En plateau, et à côté de lui, il y a Mathieu Bodmer, qui est un de ses très très bons amis.
Ouais.
Et donc en loge, ça se passe bien, on rigole, on se fait des vannes. En plus, Athem, il est un peu chez père, il aime bien les vannes, machin. Et ils sont tellement proches avec Mathieu qu'ils se disent avant l'émission, dans l'oreille, viens, dès qu'il fait une vanne, on reste stoïque, on dit rien. Et on lui nique son émission. Et pour eux, c'est un jeu de gamin, comme tu pourrais faire avec tes potes à un dîner, tu vois.
C'est très drôle.
Enfin, sauf que moi, je me dis, putain, Marseille-Paris, c'est la première grosse audience de Téléfoot. Il y a Athem Ben Arfa face à moi. C'est mon soir, tu sais. Ouais. Ça y est, c'est bon, ça y est, c'est mon match.
Ouais.
Et dès que je fais une vanne, comme ça, il reste. Et il parle pas. Il n'y a pas de public, il n'y a rien. Et c'est terrible. Et je me dis, putain, ça va être horrible. Et par contre, pendant les pubs, ah, t'as vu, on t'a bien niqué, hein, bah, et il rigole. Et
c'est
ah, pourquoi, c'est, quand t'as dit
c'est
ça.
C'est un truc de gamin, mais c'est très drôle.
C'est très marrant. Ouais. Mais sauf que le mec, dans,
toi,
dans sa télé, il le sait pas, tu vois. Et ça, c'est vrai que j'en garde un souvenir mitigé, quoi. En plus, j'étais un peu, pour le coup, en mode fanboy, tu vois. Je suis venu avec mon maillot de Newcastle, Ben Arfa, machin. J'étais un peu en mode, j'étais content de venir ce soir-là. Mais c'est un peu, c'est très mental aussi, quoi. C'est le match qui est important, bizarrement, c'est celui que tu vas rater parce que tu vas te mettre la pression. Ouais. C'était un peu ça, quoi. Et tu rajoutes à ça le côté gamin de Ben Arfa et Bodmer, et ben voilà, ça a donné... Ça, c'est, ouais, c'est l'anecdote qui me vient en tête. Ouais.
Bon, ça va. T'as une idée d'émission, là, où tu pourrais jumeler à la fois... par les sports, par les foot, et sous un ton comique, drôle, fun, sympa,
ouais,
léger.
Ouais, j'en ai plusieurs.
Tout en étant pertinent.
Ouais, j'en ai plusieurs. Alors, il y a soit du divertissement pur, des trucs où on pourrait, tu vois, mettre les joueurs dans des situations dans lesquelles on n'a pas l'habitude de les voir. Moi, j'ai adoré, par exemple, quand Alain Chabat et Kader Aoun ont créé le Burger Quiz à l'époque.
Okay.
On a mis des comédiens dans des situations dans lesquelles on n'avait pas l'habitude de les voir. Et en fait, Édouard Baird, Gérard Darmon, Gad et Jamel, ils se sont éclatés à se vanner, à ce machin. Et ce n'étaient pas des comédiens à qui on disait « Vas-y, joue, joue-moi une scène ».
C'était eux, quoi.
Eux dans d'autres situations. Bah, je suis persuadé que décaler un peu ce truc-là, le personnage du footballeur et le mettre dans d'autres situations... Il y a plein de trucs à faire. Le joueur qui appelle son coach la veille pour lui faire un canular en haut-parleur et lui dire « Coach, je suis bloqué dans telle boîte ou je me suis blessé hier, je ne peux pas jouer demain », c'est con, hein, mais c'est des petits trucs qu'on ne voit jamais et qui, si c'est bien produit, bien monté, que le footballeur joue le jeu, c'est hyper marrant. Moi, j'en suis persuadé, tu vois.
Et pour arriver à ça, est-ce que tu penses qu'il y a encore une step, c'est-à-dire que...
Mais après, c'est pas mon ambition, pardon, je te coupe, c'est pas mon ambition première de faire un divertissement pur pour un divertissement.
Ok.
Je trouve qu'il y a autre chose à faire avec beaucoup plus de profondeur, d'humain et finalement de sens, qui est un mot qui est un peu souvent utilisé en ce moment. Mais enfin bref, je trouve qu'il y a des... Tu vois, la blague pour la blague me saoule un peu. Je pense que la blague, elle doit venir dans une discussion un peu profonde et boum, là, il y a un gars, et bah, il sort la bonne vanne au bon moment et ça va détendre le truc. Et si le mec nous racontait un truc triste, et bah, ça va un peu ramener du sourire. Ou si il veut pas se livrer, ça va rendre l'émission intéressante. J'en sais rien. Si elle est chiante et lente, boum, ça va rythmer, ça va casser le rythme. Je trouve qu'une vanne utile, c'est quand même toujours plus sympa que juste faire un divertissement pour faire un divertissement et faire vendredi tout est permis, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je vois très bien. Enfin, t'es plus sur le modèle, pour le coup, du vrai sniper. À la référence française, c'est forcément pour sa Baffy. C'est-à-dire que quel que soit l'invité, le contexte, etc., même parfois sur des trucs très sérieux, il y va. Tu vois, et...
Ah, mais tu sais que moi je suis fan de ce gars-là, je l'ai rencontré un jour, je l'ai piégé dans une caméra cachée et il m'a dit: tu es la relève. Et je l'ai en vidéo, ça, je l'ai gardé dans mon téléphone, mec.
Ça tourne.
Bah, c'est ça.
C'est énorme.
C'est ton réveil le matin.
C'est comme si, pour un jeune en centre de formation, Zidane lui dit: mec, putain, t'es bon.
C'est toi le nouveau Zidane.
Voilà. Je l'ai là, je te ferai écouter après.
Ah ouais, je suis curieux. Mais non, mais j'imagine qu'effectivement, dans ce rôle-là, tu vois, avoir une autre référence, c'est difficile, quoi. Et pour parler de référence, au-delà du métier de sniper, en préparant le truc, tu vois, j'essayais de réfléchir à un sketch référence sur le sport ou un humoriste qui était particulièrement fort dans ce domaine-là. J'ai pas nécessairement trouvé de modèle. Le seul truc qui m'est venu à l'esprit, à la limite, c'est le sketch des Inconnus.
Cela ne nous regarde pas.
Absolument. Tu vois, est-ce que c'est ma culture de la comédie qui est limitée ou est-ce que
non, t'as raison. Moi, j'ai le constat que je fais quand j'arrive, c'est purée, c'est un domaine qui
c'est
touche
universel.
Tout le monde, le football.
Ah ouais.
Allume Twitter, tu vas voir, une truc sur deux, c'est du foot. Et il y a que un gars en France que j'aime beaucoup, qui s'appelle Julien Cazard, qui fait des blagues dessus. Donc c'est à dire que sur la politique, avant la campagne, là, tu vas voir tous les jours des humoristes à la télé qui vont te faire des blagues sur Zemmour, sur Mélenchon, sur trucs, tous les jours. Dans le foot, il y a que un mec qui fait ça. Les gars, c'est pas possible.
Il y a une vraie anomalie.
C'est pas possible. On devrait être dans les interviews. On me demande souvent: est-ce qu'il faut tuer le père? Est-ce qu'il faut évincer Julien pour prendre sa place? Mais je réponds: mais les gars, pas du tout. On devrait être 12. Je sais pas si vous vous rendez compte que le foot prend une place de fou à la télé, dans la société, qu'il y a un gars qui fait des blagues dessus.
Et ce qui est ouf, parce que tu mentionnes Twitter. Mais il y a des mecs sur Twitter qui sont hilarants. C'est-à-dire que c'est un terrain pour l'humour Twitter, et sur le foot particulièrement, parce que forcément c'est partisan, t'as des, mais t'as des mecs qui sont très très bons. Et la représentation que tu pourrais avoir sur les médias mainstream, etc., effectivement...
Alors il faut faire très gaffe, l'humour Twitter, et t'es bien placé aussi pour le savoir, est très différent de l'humour dans la vraie vie. C'est un peu comme le gars qui dit à moi, à mes potes, tout le monde me trouve drôle à un dîner, et puis qui monte sur scène un jour, et on se dit, mais c'est un autre métier, mec. Tu vois, et Twitter, c'est quand même des blagues beaucoup, c'est très imagé, Il y a, tu vois, il y a.
Puis c'est ponctuel. Tu peux faire un four sur une sur un tweet et puis après tu peux être super hilarant. C'est irrégulier quoi en fin de compte.
Ouais, ouais mais en volume, tu vois, en volume, le nombre de gens qui prennent la parole en essayant d'être drôle ou en étant un gros chasseur versus les, tu vois, l'exposition que l'humour du sport peut avoir.
Ah mais t'as un Français sur deux qui a déjà fait une blague sur le foot sur Twitter. Quoi.
Mais voilà, tu vois, et je trouve que même si effectivement les mécanismes sont complètement différents. T'as une sous-représentation du sport dans l'humour. En tout cas, c'est la perception, tu vois, que j'en ai en ayant préparé un peu le.
Mais parce qu'en fait, ça fait 15 ans que le modèle Canal+, c'est. Mais qu'il a marché, il a fait ses preuves. Hein. C'est. On dramatise l'événement. On utilise des termes guerriers, on met des musiques guerrières. Je sais pas si tu regardes. Toudoudou, toudou, l'affrontement, demain. Ouais. Marseille, Paris reste sur 3 victoires. Il faut. Rendez-vous 21h sur Canal+.
Avec du tacle, avec du...
Les images, ces trucs. Les musiques derrière, c'est Gladiator ou c'est un gros son de hip-hop un peu, tu vois. C'est un modèle qui a fait ses preuves de dramatiser un peu tout ça. Et donc, tu vas pas ramener un clown à l'intérieur qui va faire pouet-pouet, tu vois.
Est-ce que tu penses que là...
Non, mais c'est un peu ça. C'est vrai, les gars.
Retrouver Paris, Marseille. Ah, non, mais...
Tu vois.
Est-ce que tu penses que cette transition-là, comme beaucoup de choses nouvelles dans le foot... Elle passe pas aussi par le fait d'avoir d'anciens joueurs ou des consultants qui se risqueraient à faire des traits d'humour de manière un peu plus... sans se prendre pour des comédiens. Je te dis pas qu'il faut que t'aies...
Mais à montrer leur personnalité. Bah, tu vois ce qui se passe avec Thierry Henry depuis le début de la saison.
Ouais, c'est...
Il aime bien jouer propre rôle.
C'est le premier à faire ça.
Il fait des têtes, il fait des regards, il appuie sur les mots, il répète trois fois, il va vanner le journaliste parce qu'il lit ses fiches. En fait, Thierry Henry a un sens du show parce qu'il a fait de la télé en Grande-Bretagne. Ils sont très, très doués là-dessus. Il a un sens du show. Il a compris que la télé, c'était aussi un spectacle. Ouais. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas travaillé avec lui, mais j'ai travaillé avec beaucoup de consultants français qui ont moins ce sens du spectacle et qui sont plus dans « Ok, il ne faut pas que je dise de bêtises. Il faut que mon analyse soit pertinente. »
Ouais, t'as une forme de...
4-4-2, 4-3-3. C'est aussi leur rôle. C'est ce qu'on leur demande. Donc, tu ne peux pas leur reprocher. Ouais. Mais moi, je suis persuadé que c'est deux fois plus fort Thierry Henry qui fait une blague que Paul de Saint-Sernin qui fait une blague. Et le jour où les consultants comprendront ça, je serai au chômage. Bah oui.
Ouais,
imagine, si un mec qui a gagné une Ligue des Champions, il fait les mêmes blagues que moi, même moi, je choisis l'autre. Hein. Enfin, tu vois, non, mais c'est vrai.
Vas-y, à ma place. Non, mais c'est vrai que, et là, je reviens sur le côté culturel français, c'est que c'est des trucs dans d'autres marchés qui ont fait leur preuve. Tu parlais effectivement de l'Angleterre et effectivement, tu vois, que ce soit un Carragher ou un Neville, ils ont cette capacité. Beaucoup d'autodérision d'ailleurs, comme par exemple chez Neville.
Comment il s'appelle le consultant phare en Angleterre là,
Gary Lineker.
Ouais, Lineker.
Mais il est présent, lui, il est même passé présentateur, c'est qu'il est même plus.
Parce que lui, il a vraiment eu le sens du show.
Ouais.
Ouais.
Il a vraiment compris que c'était un spectacle, qu'il fallait.
Mais d'ailleurs, il est passé présentateur, tu vois, il a dépassé le rôle de consultant, on lui confie des émissions à ce mec-là.
C'est ça.
Et je pense que culturellement, c'est encore une barrière à dépasser. Et si je vais encore plus loin que l'Angleterre, tu vois que je pense aux États-Unis, des mecs qui ont été des stars absolues, leur carte de consultant, c'est avant tout d'être dans l'humour. Je pense à Shaq, tu vois, Shaquille O'Neal, qui est un des plus grands basketteurs de l'histoire. Quand tu regardes comment il s'est fait sa place.
Là, t'as les deux.
Tu vois.
Ouais, là, t'as le background du mec qui a quand même, une superstar mondiale de son sport.
Et le mec est drôle.
Et
il joue la carte. Enfin, il est drôle. En tout cas, il joue la carte de l'humour.
Parce qu'à l'étranger, on laisse la place, énormément de place aux consultants. En Angleterre, par exemple, tu vois, tu me parles de Gary Neville, Lineker. Il y a Roy Keane aussi qui est très très bon. Il a son ton.
Ouais.
Ouais, il taille les joueurs, mais c'est extraordinaire. Ouais. Il les taille super bien. Donc, en fin de compte, à l'étranger,
comme
on laisse la place. Ouais. On laisse la place aux consultants parce que c'est le consultant phare. Tu vois, c'est pas le présentateur ou c'est pas le journaliste, voilà. Et en France, jusqu'à il y a peu, je pense que ça a évolué.
Le journaliste est plus star que le consultant, c'est ça que tu vas dire ?
J'ai pas fini, Paul, tu laisses finir ma phrase. Il y a eu un modèle où le consultant était juste un petit plus, mais sans plus. Tu vois, il était juste là pour valider un peu, pour porter la caution football.
Et je suis totalement d'accord.
Et petit à petit, ça tente à évoluer. Justement, je suis sur Prime, où là, tu vois vraiment la direction qui nous dit « Non, non, mais... » rentrer dans la technique.
Enfin,
dans
c'est vous qui avez joué au foot, c'est vous qui êtes intéressant.
C'est assez sympa et c'est validé par les présentateurs ou les commentateurs qui sont carrément là. Ils sont pas à notre service, mais ils nous poussent à, tu vois. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça change, il y a un shift. Il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas du tout le cas.
Et moi, je trouve que c'est un point hyper important. Et c'est vrai pas que dans le foot. Quand on en parlait souvent, quand Léa Salamé interviewe un politique et que tu as l'impression que c'est Léa Salamé qui est plus la star que le politique, moi, ça me dérange. ça me dérange beaucoup.
Et c'est pour ça qu'il faut changer un petit peu tout ça.
D'autant que cette mouvance du journaliste ou du présentateur qui est la star de son émission, ça, à la base, ça vient du divertissement. C'est-à-dire que c'est beaucoup le modèle américain sur les late shows, etc. Où, à la limite, c'est du divertissement. C'est pour parler de spectacle et de cinéma. C'est entre guillemets plus facile et plus acceptable. Quand tu transfères ça à la politique ou au sport qui nécessite quand même un minimum de connaissances pour l'analyse, je ne sais pas pourquoi j'ai bégayé, mais pour l'analyse, c'est quand même plus problématique. Et ça revient à ma question de départ, c'est-à-dire que même si tu es dans l'humour, même si ton rôle c'est d'être le sniper, tu as besoin d'avoir une connaissance du sujet qui est très pointue pour que ce soit toléré et que ça marche.
Moi, j'irais même plus loin. Paul a une connaissance du foot, il joue au foot aussi. Parce que tous, hein, tous les commentateurs, tous les consultants, enfin pas les consultants, tous les journalistes, c'est des... Mister Geek, ils connaissent tous le football. Ils ont, tu fais un quiz avec eux, c'est des killers. Ils
savent c'est qui eux qui a gagné gagnent, plus que les joueurs.
Mais bien sûr, carrément. Mais du coup, ils n'ont pas joué au football à un bon niveau. Quand je dis bon niveau, je ne dis pas il faut jouer en D1, ne serait-ce qu'au niveau ligue. Tu vois, tu sens quand même la problématique, la difficulté qu'il y a de se lever le dimanche matin et d'être moins bien et quand même d'être bon. Et du coup, ça, si tu ne l'as pas vécu, c'est très difficile d'arriver à avoir une analyse censé avoir beaucoup de bienveillance envers le joueur. Et toi, tu as joué. T'as pas joué pro, mais t'as quand même un bon niveau.
Hein ? Vas-y, dis qu'il est nul. C'est-à-dire, t'as pas
non, mais parce que très souvent, les journalistes disent « Oui, j'ai eu un petit niveau, je joue en régional. » Mais c'est pas un petit niveau régional, c'est un bon niveau. Donc tu sais taper dans un ballon, pied droit, pied gauche, tu sais ce que c'est la problématique. Si tu me dis que t'as joué...
Et c'est pour ça que tu sais, le fameux débat « Est-ce qu'il faut avoir joué au foot pour juger les joueurs ?» Et tout le monde dit « Bah non, pas besoin. » Moi, je suis pas d'accord.
Moi, je pense qu'il faut avoir joué à un bon niveau quand même. Parce que tu joues en district. Déjà, district à régional, c'est pas le même niveau.
Parce que c'est facile de dire « Ah bah là, il doit changer de côté, ça vient de la gauche, il faut repartir à droite. »
Bien sûr, on sait tous.
Sauf que le joueur... Il va se dire, oui, mais gros, là, il reçoit le ballon sur son mauvais pied. Il sent que ça arrive derrière. Il préfère mettre une passe pour pas la.
Enfin, tu vois, pas bon.
Et ça, tu peux pas le ressentir si t'as pas joué. Voilà.
T'as raté deux fois les transversales. Ça a causé des contre-attaques. T'as un peu le pied qui tremble. Comment tu fais? Mais ça, tu vois, t'as pas besoin d'avoir été professionnel. Tu joues à un niveau régional qui est un bon niveau pour moi. Tu peux. Et t'en analyses. Mais ça se voit. Hein. Je vois les mecs qui ont joué à un niveau régional. Ceux qui ont joué à un niveau district ou plus bas, qui ont jamais tapé dans un ballon. C'est eux qui disent, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. 89e, il faut faire un pressing. Ouais, mon pote, t'as déjà joué.
Ouais, merci pour l'idée. Enfin, tu vois,
Et je pense que lui aussi, hein, mais il a plus de gaz. Tu vois, il a avalé la trompette, il est complètement rond de chez rond, il ne peut pas le faire. Et il faut l'avoir expérimenté. Et je pense que c'est ce qui fait parfois défaut. Et ça change aussi. Je trouve qu'en ce moment, il y a de plus en plus de personnes, de journalistes ou même des consultants, pas de soucis, de journalistes ou de commentaires, enfin, je ne sais pas, là, qui évoluent à des bons niveaux, qui ont évolué à un bon niveau. Ils ne sont pas arrêtés en U11. Et voilà, tu vois. Donc, ça enrichit tout le monde. Et je trouve que c'est le grand vainqueur, c'est le football.
Tu disais que tu n'avais pas de souvenir d'un humoriste à ton époque qui n'avait pas particulièrement été. Qui t'avait visé ou quoi au caisse, mais. Est-ce que tu as l'exemple de coéquipier qui avait été touché par ce genre de truc?
Tout le monde.
Quand
je dis ça, et je vois la question, excuse-moi de te couper. Quand je dis ça, c'est que Julien était déjà là, il existait. Je le connaissais avec Seb Toen d'Action Discrète.
Exactement.
D'Action Discrète.
Action Discrète, ouais.
Discrète que j'aimais bien. Et il a commencé à bosser sur M6. Et une fois, il m'invite sur le plateau. Donc je sais son humour, je sais son truc. Il fait une vanne avec le Palois. Moi, je suis Palois. Et il commence à me parler du PSG de l'époque. Il dit Edouard, t'as été Palois d'être en équipe de France. T'as été Palois de gagner la Champions League. T'as été Palois. Et effectivement, moi, ça m'a fait rire. Tu vois, c'était drôle parce que c'est Palois. Et moi, je finis par ouais, t'as été Palois d'être drôle.
Oh. Tu vois,
mais moi, j'ai une répartie. Mais ça m'a fait rire.
Et il l'a bien pris.
Je sais pas. Objectivement, je sais même pas si
il
a entendu.
Il rit en...
Oui, mais il n'y a pas de souci. Ouais. Mais je me dis, si j'ai pas de répartie, si je suis un peu blessé, peut-être qu'il ne tente pas aussi, parce qu'il se permet de dire ça, parce qu'il cite des clubs et tout ça. Et c'est pas évident quand même. Ça peut être désarmant, déstabilisant, tu vois.
Tu sors grandi de cette séquence. Parce que...
Je sais pas.
Et d'ailleurs, moi, j'ai un truc pareil. J'ai deux grands... Pardon, je perds mes mots. J'ai deux maximes, quoi. La première, c'est rire quelqu'un.
Ouais. Maxime Marchand.
Excellent, qui est le producteur de cette émission et qu'on applaudit. Merci à lui.
Ah là, mais il m'a fait une passe d'un
Excellent.
Donc, première, c'est rire avec quelqu'un et pas de quelqu'un. Et deuxième, c'est ne jamais oublier que les gens, ils sont pas là pour te voir toi, mais ils sont là pour voir le joueur à qui tu parles. Donc, laisse-lui le dernier mot. En fait, quand je fais une vanne à Mbappé et qu'il me répond, je prends cet exemple, j'aurais pu en prendre 1000, je vais pas surenchérir derrière parce que je vais passer pour le petit con de journaliste qui veut donner une leçon à un gars qui a quand même déjà prouvé sur un terrain. Pareil avec un politique. Je vanne Macron, je le laisse me répondre. Ah, c'est cool, je passe pour le gentil. Si je lui re-réponds derrière, là, je passe pour le connard.
Néanmoins, je reviens avec l'anecdote de Julien. Julien, il était sur M6, il débutait dans ce rôle de sniper et des trucs. Après, je ne l'ai pas revu sur J+1. Enfin, je n'ai pas été témoin de ses frasques sur J+1. Je trouve que parfois, sur certaines de ses séquences, hilarante, certes, au demeurant, mais je me dis, je n'aurais pas aimé être le joueur.
Ah ouais.
Tu vois, quand t'es invité de J+1 et qu'il arrive et qu'il t'envoie, il enchaîne 2-3 trucs de punchline qui sont super drôles, il faut être équilibré quand même. Tu vois.
Après,
je pense
que t'as en grande partie la réaction aussi du mec, parce que tu vois, 100% foot, l'émission à laquelle tu fais référence. Moi, je me rappelle de deux chroniques en particulier, celle de Pires et celle de Dorasso.
Il cache, ouais.
Où les deux pleurent. Tu vois, il pleure de rire. Enfin, tu as Pires, par
exemple. Mais il est super drôle, attention.
Non, mais je pense que. Enfin, je sais pas, je suis absolument pas dans la tête de Julien. Toi, tu peux peut-être plus répondre à ça. Mais peut-être que s'il voit que. Tu vois, le mec, il regarde autour de lui en disant non, mais il est sérieux avec ce qu'il dit. Est-ce que t'as pas une forme de self-control et que même si t'es dans ta chronique, que tu l'as préparée, tu.
Non, mais ce qui est vrai, c'est que. Une blague sera toujours validée par la réaction derrière. Ouais, c'est-à-dire que je peux faire une très bonne vanne si les gens ne rient pas derrière, le mec devant sa télé va se dire « Oh, il est bidon, lui !» Je peux faire une vanne moyenne, mais si Hanouna il rigole fort et que tout le monde applaudit et que le public il se lève, on va se dire « Ouais, il est trop marrant, ce gars !» Mais ça, à partir du moment où tu connais les règles du jeu, c'est à toi aussi de le sentir. Donc c'est à Julien de se dire « Ah, lui, il peut mal le prendre, il est un peu fragile, je vais pas aller assez loin. » C'est aussi une forme d'intelligence...
C'est ce qu'il disait de temps en temps. Ça, je voyais hein, sur certains invités, tu sentais qu'il mettait le frein à main. Ce qui peut se permettre sur Vikash, sur Robert ou sur moi, entre guillemets, c'est validé. Comme tu disais au début, c'est facile d'attaquer un peu, entre guillemets, les forts. Enfin, tu sais que c'est de l'humour.
Voilà.
Et parfois, et sur J+1, il y avait des invités qui n'étaient pas. Qui prenaient leur essor, tu vois, médiatique. Parfois, je trouvais que c'était un peu grinçant. C'était pas évident.
Ah ouais. Par exemple, il y a une super séquence aux remises des trophées UNFP où c'est Debbouze, Jamel Debbouze qui remet un trophée à Zizou. Mm. Bon, bah, tu sais que quand tu vannes Zizou, en fait, t'as même plus besoin de prouver que Zizou il est fort. Ça y est, on a, vous inquiétez pas, ce que je dis c'est pour rigoler et on est tous fans de Zizou. En fait, on a tous passé ce step là.
Ouais.
Donc, du coup, on est déjà direct dans la blague. Tu vois ce que je veux dire?
Ah, là, c'est déjà vanner Zizou, déjà, c'est une blague en soi.
Ouais.
Déjà.
Ouais, voilà. Non, mais tu
peux pas vanner Zizou.
Et puis, la séquence est exceptionnelle parce que tu as Zidane qui, sur un terrain de foot, marche sur l'eau. Et là, il est, tu vois, limite timide, il rougit, il rigole, tu sens qu'il parle en off à Jamel. Donc, tu as le moment de télé en plus.
Magnifique.
Et ouf. Mais écoute, on a pas vu le temps passer. Ça prouve que c'était très agréable.
Mais j'ai pas appris grand chose, moi. Edouard, il y avait de la coke alors au PSG à l'époque ou pas? Dans
ouais,
les vestiaires.
Ouais, ouais, super. Bah, c'est Ronny qui l'a amené. Il l'a passé dans le canal de je sais pas quoi.
Ça, c'est juste pour mettre sur Twitter. Hein. C'est l'extrait pour que vous cliquiez sur le podcast.
Je vais vous dire ce que moi je retiens de cet épisode, c'est qu'en fait, il n'y a pas à avoir de distance. C'est simplement appliquer au football l'humour qu'on applique au reste. C'est-à-dire qu'il y a des bons moments pour le placer, il y a un ton en fonction de l'invité, et l'occasion fait le larron, c'est-à-dire que tu t'adaptes à ce qu'on t'amène.
Moi, j'ai une réponse un peu cucu, mais qui je pense est très vraie, c'est dès que tu sens de l'amour dans une blague, et c'est vrai pour le foot et pour tout, tu peux vanner ta meuf. Si tu sens que derrière, tu vois, si elle sent que tu l'aimes et que c'est pour la taquiner, tu peux aller super loin dans ta blague, elle va bien le prendre. Je pense que c'est pareil avec le foot.
Yeah.
Si tu sens que t'aimes le foot, que tu respectes les footballeurs, eh ben tu peux vanner un gars, il n'y a aucun souci. Par contre, si c'est un mec qui est en dehors du foot et qui pense que tous les footeux sont des beaufs et qui vient et qui dit « Ah, vous êtes des beaufs », bah lui, on va le tacler direct parce qu'il n'a rien compris, en fait. Mm. Donc, je pense que la dose d'amour qu'il y a dans ta blague te permet presque de tout dire.
Mm. Bah, donc, tu vois, mon lapsus de tout à l'heure n'était pas... Si idiot que ça.
Entre non, mais, amour et humour, ouais, c'est vrai.
Ça revient à ta formule, c'est-à-dire qu'on rit avec, on rit pas d'eux, et tu vois, c'est inclusif.
Par contre,
et...
que ta meuf, si elle sent que tu la kiffes à mort, tu peux lui dire « purée, t'as grossi », ou tu peux lui dire un truc comme ça, elle va rigoler. Alors que si elle est toujours pas en confiance, qu'elle te fait pas qu'elle sent que « ah, voilà, que ça va pas bien entre vous », tu lui fais la même blague, elle va très mal le prendre, je pense. Et je pense que c'est un peu pareil.
Et ben, ce sera note finale.
Du love. Voilà. On veut du love.
Non, moi j'ai pas eu la réponse d'Edouard sur la question de la fin.
Écoute, ça, je pense qu'il
en off.
Il est pas prêt à le donner à l'antenne. Merci beaucoup, Paul.
Bah, de rien, ça me fait bizarre, tu sais, de parler aussi longtemps derrière un micro sans faire de blagues, en étant un peu sérieux.
Ouais, ah, parce que c'était pas ton one-man show, là.
C'est pas
souvent... T'as fait 1h15, t'as dit pas mal de conneries, quand même.
J'en ai dit beaucoup. Mais c'est pas souvent la raison pour laquelle on m'appelle en ce moment, donc c'est aussi très intéressant d'être considéré.
Eh ben écoute, en tout cas, nous, on a rigolé et on a appris des choses.
Merci, Paul. Merci, Mathieu.
Merci à toi, Edouard.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars?
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.